Bien-aimés, baissez nos têtes, nous allons baisser nos têtes, prier pour le message. Père céleste, je veux te rendre toute la gloire et je veux t'honorer pour ta parole. Ta parole qui est la vérité, qui est la source de vie, elle est une épée à double tranchant. Maintenant, elle est aussi source de vie. Elle est une hôte intarissable. Elle est la nourriture, le pain de vie. Et nous voulons écouter cette parole, Père. Que cette parole ce soir nous apporte et nous amène dans une autre dimension de grâce. Il y a beaucoup de choses que tu veux faire pour nous, mais nous ne sommes peut-être pas disposés et nous ne savons pas comment les recevoir. Mais par ta parole, Père, nous comprenons et nous savons et nous recevons. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire pour ce message. Au nom de Jésus, amen. Alors, bien-aimés, ce soir, le Seigneur me met à cœur de vous prêcher sur un thème intitulé « Le pilier et la racine de la volonté de Dieu ». Le pilier et la racine de la volonté de Dieu. Lorsqu'on construit un bâtiment, il y a un pilier. Un pilier, et souvent, il y a un gros pilier central. Comme dans notre salle, par exemple, ici, on a un gros pilier là, qui est au milieu de la salle. Et je crois que si ce pilier est cassé, le bâtiment ne va pas tenir. Et quand on parle de racine, un arbre qui n'a pas de racine n'est pas un arbre. Amen. Et quand nous voyons un arbre avec beaucoup de feuillage, un gros arbre comme les baobabs, c'est qu'ils ont des racines solides. Amen. Alors, la volonté de Dieu a aussi un pilier. La volonté de Dieu a aussi une racine. Pour ne pas dire des racines, parce que je veux parler d'une chose. Amen. Et ce soir, je veux te parler de quelque chose de très simple. De quelque chose, en fait, qui, lorsque tu lis la Bible du début jusqu'à la fin, tu te rends compte que cette chose caractérise Dieu lui-même. Et cette chose, en fait, est le but de la création. Et cette chose est le but de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et cette chose est le but du retour prochain de Jésus-Christ. Et cette chose est aussi ce qui a poussé Dieu à nous préparer encore une nouvelle terre et un nouveau ciel, la Jérusalem, nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il y a cette chose qui caractérise Dieu. C'est-à-dire que quand tu lis même l'Ancien Testament et que tu vois que Dieu a donné les commandements, malgré qu'il y avait les commandements, tu sais que cette chose dont je vais te parler ce soir était à la base de ces commandements. Amen. Parce que la loi, nous sommes sous la grâce, mais la loi joue un rôle aussi. La loi permettait d'éviter de faire certaines choses qui n'étaient pas la volonté de Dieu contre Dieu lui-même ou contre son prochain. Amen. Quand Dieu disait par exemple, tu ne tueras point, ça veut dire que tu ne feras pas du mal à ton prochain. Quand Dieu disait par exemple, hein, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ça veut dire que et cette chose-là t'amenait maintenant à Dieu lui-même. Tu devrais honorer que Dieu et non pas un autre Dieu parce qu'il est le seul, vrai et unique Dieu. Bien-aimé, je veux te dire ce soir qu'il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais il y a des faux dieux que des gens se fabriquent. Et je vais te parler du pilier et de la racine de la volonté du vrai Dieu aujourd'hui. Le seul Dieu. Alors, bien-aimés, prenons notre Bible pour commencer avec le texte de Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 40. Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 40. Il est écrit, les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens se rassemblaient. Le verset 35 dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Verset 36 dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus lui répondit. Nous allons répéter ça ensemble à partir de Jésus lui répondit. On lit ensemble maintenant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Amen. Nous allons répéter. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39 dit, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 40, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Oh, alléluia! Bien aimé, à travers déjà ce passage, je pouvais arrêter ma prédication. Des gens, les pharisiens qui voulaient à chaque fois trouver une faille dans l'enseignement de Jésus-Christ, après lui avoir parlé du tribut de César, après l'avoir accusé pour un tel, ils vont vouloir lui trouver encore une faille dans la loi. Ils s'approchent de lui et lui demandent, mais toi qui n'arrêtes pas de prêcher, de parler, de dire toutes ces choses, quel est le plus grand commandement? Jésus donc va retourner dans l'Ancien Testament et leur répéter quoi? La loi. Qui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Normalement, il pouvait s'arrêter là. Normalement, Jésus pouvait s'arrêter là. Mais Jésus va leur donner un deuxième qui accompagne le premier pour leur faire comprendre que ce premier commandement-là est fait en exprès pour que vous puissiez aussi aimer votre prochain. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, tu ne peux pas détester ton prochain. Parce que la Bible dit que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Donc, en l'homme se trouve le souffle de Dieu, le souffle de vie qui représente Dieu lui-même. Parce que la Bible dit qu'il a soufflé en l'homme. Yes. C'est quelque chose qui est sorti de Dieu, qui est allé dans l'homme. Yes. Donc, l'homme, en quelque sorte, ton frère que tu vois, tu ne peux pas voir Dieu de tes propres yeux, mais ton frère que tu vois, il représente Dieu devant toi. Donc, si tu hais ton frère, si tu détestes ton frère, c'est Dieu que tu es en train de détester et c'est Dieu que tu es en train de haïr. Donc Jésus, il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit, voici le premier commandement. Et puis il rajoute lui-même son petit commandement qui complète le premier commandement, mais qui en fait du premier commandement un seul commandement divisé en deux. Jésus va dire, et voici le second qui le suit. Voici son petit frère qui le suit. C'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh my God! Comme toi-même. En fait, c'est là que tu te poses la question, comment je m'aime? Comment moi je m'aime? Quand je me vois dans le miroir, je me regarde comment? Quand je parle de moi-même, j'en parle comment? Quand je pense à moi, comment est-ce que je pense à moi-même? Qu'est-ce que je veux pour moi? Bien-aimé, à partir du moment où tu ne peux pas te haïr toi-même, tu ne dois pas haïr ton prochain. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, voici, pour commencer, avant que je décortique mon message, la racine est le pilier de la volonté de Dieu. Celui qui n'a pas compris cette chose, quelle que soit sa vie chrétienne, quels que soient ses sacrifices, quelles que soient ses offrandes, quelles que soient ses évangélisations, quel que soit son temps à l'église, quelles que soient ses dîmes et ses offrandes, quel que soit le témoignage et le titre que la personne peut avoir, la personne n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu est amour. Et l'enfant de Dieu doit caractériser l'amour. Amen. La Bible nous dit quoi? Dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle croit la vie éternelle. La première partie nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'aurait pas créé le monde. Si Dieu n'avait pas aimé l'être humain, il n'aurait pas créé d'abord le monde et créé ensuite l'être humain en dernier pour lui dire profite de ce monde. Bien-aimé, lorsque Dieu nous a créés, il avait déjà créé le ciel et la terre. Il avait créé la verdure. Il avait créé les animaux qu'on doit manger. Il avait créé tout ce qu'il fallait. Il avait déjà créé la végétation. Il avait déjà créé notre univers. Et après, il nous a créés. Il nous a créés pour quoi? Il nous a créés pour que nous profitions de cela. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour que les moustiques nous piquent, pour que le lion nous mange, pour que nous mourons de faim, pour que les serpents nous poursuivent. Dieu ne nous a pas créés pour que le dragon nous fasse du mal. Non, c'est notre péché qui a entraîné ces choses. Mais Dieu, lorsqu'il nous a créés, c'est pour que nous puissions bénéficier de ces choses. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible dit, parce que le premier Adam a échoué, il y a un autre Adam qui est arrivé pour renouveler ces choses. Cet Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsqu'on devient chrétien, qu'on accepte Jésus-Christ, les choses qu'on devrait vivre dans le jardin d'Éden qu'on a perdu, on doit les revivre en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu doit être paisible. Un enfant de Dieu doit avoir la paix dans le cœur. Un enfant de Dieu doit avoir la tranquillité. Un enfant de Dieu ne doit pas mourir de faim. Même si la terre a été maudite, la terre n'a pas été maudite pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, il devient une nouvelle créature. Il revive dans la nouvelle. Oh, Samashakariaba, comme Sokobo Yakabakosi. La terre a été maudite. Mais elle n'est pas maudite pour tous ceux qui acceptent Christ. Parce que lorsque tu acceptes Christ, cette malédiction ne te touche plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La faim est passée. Les épreuves sont passées. La malédiction de sa famille est passée. Les échecs de sa famille, toutes les choses héréditaires qui le fatiguaient sont passées. Cette personne devient une nouvelle créature. Et cette personne peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ces choses ne me toucheront plus. Mais en Christ se trouve quoi? L'amour. En Christ se trouve l'amour. Bientôt nous allons rentrer. Nous allons faire la fête de Pâques. Nous allons avoir un message. Nous allons comprendre que cet homme n'a pas ouvert sa bouche. Nous allons comprendre que cet homme ne s'est pas plaint contre ceux qui le condamnaient, qui l'insultaient, qui le frappaient. Tout cela parce qu'il avait l'amour pour nous et il voulait mourir pour que nous soyons sauvés. Jésus était Dieu. Il pouvait se défendre. Il pouvait faire descendre un éclair du ciel et puis foudroyer tous ceux qui lui faisaient du mal. Mais il a accepté comme un agneau et il est allé mourir à la croix pour nos péchés. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Lorsque nous lisons la Bible, bien-aimé, dans Jean chapitre 14, verset 15, la Bible dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si je comprends bien, un enfant de Dieu ne peut pas dire j'aime Dieu, ne peut pas dire je suis chrétien sans garder les commandements de Dieu. Mais quel est le pilier des commandements de Dieu? Quelle est la racine du commandement de Dieu? Qu'est-ce qui doit motiver ta vie chrétienne? C'est l'amour. Quelqu'un peut répéter avec moi l'amour? L'amour. Je ne suis pas en train de te parler de l'amour du monde. Je ne suis pas en train de te parler de ce que quelqu'un te voit dans la rue parce que tu es une jeune fille. Il dit, je t'aime. En effet, en te disant je t'aime, il est en train de te mentir. Il est tout simplement en train de te dire, j'ai envie de te détruire. Ce n'est pas le vrai amour. Je ne suis pas en train de te dire ce que quelqu'un peut te voir pour dire, mais est-ce que tu sais que je t'aime à la folie? C'est faux. C'est faux.
Il t'aime pas la folie. Parce que s'il t'aimait la folie, dès qu'il a prononcé cette phrase, il devrait être fou. Automatiquement. Amen. Est-ce que tu sais que je t'aime à la folie? Mais si c'était vrai qu'il t'aimait à la folie, dès qu'il a fini cette phrase, tu devrais le voir fou en train de se déshabiller, crier dans la rue. Mais lorsqu'il te dit ça, il est normal. C'est que c'est faux. Je ne suis pas en train de te parler de l'amour que ton père a eu pour toi, que ta mère a eu pour toi. C'est normal, tu es leur enfant, ils t'ont aimé. Ce n'est pas de cet amour que je te parle. Je te parle de l'amour qui sort vraiment de tes entrailles, qui sort de ton cœur, qui sort de ton âme. L'amour qui va t'effacer, l'amour qui va te rendre humble. L'amour qui va te faire travailler sur toi-même et puis retirer la colère de ta vie, retirer l'orgueil de ta vie, retirer l'arrogance de ta vie. Et lorsque tu te lèves chaque matin, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain? Cet amour qui fait que tu n'aimes pas voir les autres souffrir. Cet amour qui va faire que lorsque tu vois quelqu'un en train de souffrir, tu as l'impression que c'est une partie de toi qui est en train de souffrir. Comme Dieu dans le ciel, lorsque nous n'allons pas bien, Dieu ne va pas bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Il y a des messages que lorsque je prêche, j'ai envie de couler des larmes. Parce que je regarde ma vie et je me dis, mais qui suis-je pour que ce Dieu me sauve? Quand je regarde tout le mal que j'ai fait, je dis, mais il y a vraiment un Dieu dans le ciel. Et puis je me dis, mais il m'a vraiment aimé. Pourquoi ce Dieu m'a fait ceci? Et la réponse que je peux me donner, c'est parce qu'il m'aime. Je vais te révéler quelque chose ici, bien-aimé. Lorsque Dieu t'aime, c'est pour t'apprendre toi aussi à aimer. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Tu ne peux pas rentrer dans le paradis si tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Le paradis est rempli des êtres qui savent ce que c'est l'amour. Dans le paradis, dans la Nouvelle Jérusalem, se trouve l'amour, se trouve la joie, se trouve la paix. Aucune haine n'ira dans ce lieu. Donc, lorsque Dieu t'aime, Dieu t'amène à comprendre ce que c'est que l'amour. Vous allez voir que la Bible est remplie du mot amour. Même dans la loi, quand Dieu dit ne tue pas ton prochain, c'est une manière de dire à l'homme, aie l'amour de ton prochain. Le temps de la grâce n'était pas arrivé. Dieu était obligé d'instituer la loi. Pourquoi? Parce que les hommes étaient en ce moment sans aucune règle, sans aucune loi. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il faut manger. Il y a quelqu'un même qui disait un jour, il dit, mais pourquoi Dieu dit de ne pas manger le porc? Et quand tu le décris, le porc, quand tu le décris en tant qu'animal, c'est un animal qui décompose vite, un animal qui peut facilement créer des microbes, un animal qui mange n'importe quoi. Et écoutez, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas manger du porc dans le désert, quand il les donnait la loi, bien aimé, vous savez pourquoi? C'était pour leur santé. Ce n'était même pas parce que cet animal lui-même, il était dégueulasse et il n'était pas mangeable. Si, il est mangeable. Il y a des gens qui mangent, qui sont bien contents. Le jambon, il n'est pas mal, le jambon. Mais je suis en train de te dire quelque chose. C'était pour la santé parce que dans le désert, il n'avait pas de frigo. Et en ce moment, il n'y avait pas toutes ces choses pour conserver, pour congeler. Alors, tu vas le tuer, un animal de porc, tu vas le mettre là, tu vas revenir, il y a des asticots là-dedans. Ce n'est pas bien pour la santé. Dieu dit, tu ne mangeras pas du porc. Il y a certaines règles, certaines lois que Dieu a données aux enfants d'Israël. Il y avait dans ces lois-là, hein, des éducations spirituelles, des éducations sur le plan de la santé, des éducations sur le plan du savoir-vivre avec son prochain. Les éducations sur comment même s'habiller, comment marcher, comment régler des problèmes entre hommes et hommes. Parce que les gens ne savaient rien de cela. C'est d'ailleurs pour cela que la loi a devancé la grâce. Parce que quand tu connais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, tu es libre maintenant de choisir de faire les bonnes choses ou faire les mauvaises choses. Amen.
Amen.
Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans toujours Jean 14, le verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de qui? De mon Père. Et je l'aimerai aussi et je me manifesterai à lui. Bien-aimé, est-ce que Dieu s'est déjà manifesté à toi? Vous savez, on demande le don de guérison, le don de miracle. On demande à ce que nos églises soient remplies. Mais nos églises peuvent être remplies de 400 000, de 300 000, d'un million de personnes. Mais un million de personnes remplies de haine. Un million de personnes remplies de rancunes qui se mangent les uns les autres parce qu'ils n'ont pas la base, ils n'ont pas le pilier, ils n'ont pas la racine qui est l'amour. Dans la plupart des églises aujourd'hui, c'est la concurrence. Les fidèles contre la femme du pasteur. Les choristes contre les batteurs. Les batteurs contre ceci. Le service d'homme contre cela. Alors, une nouvelle sœur qui arrive, qui s'habille bien, ça dérange l'ancienne sœur. L'ancienne sœur qui s'habille bien, ça dérange la nouvelle sœur. L'autre est trop belle, l'autre se trouve vilaine. L'autre se trouve vilaine, l'autre se trouve belle. On ne sait plus dans les églises, c'est devenu un club de hippies. Parce que la racine, la base, le pilier n'y est pas. Être chrétien est devenu comme une mode maintenant. Je vais à l'église pour montrer mes vêtements. Je vais à l'église pour montrer que j'ai une voiture. Je vais à l'église pour montrer que je sais chanter. Je vais à l'église. Il y a même des serviteurs de Dieu aujourd'hui, tu vas voir sur le net. Quelqu'un va les provoquer. C'est vrai, ça fait mal des fois quand quelqu'un te provoque, il te parle mal en tant que serviteur de Dieu. Et il y a d'autres qui vont lui dire carrément, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais qui vont lui dire, toi là, tu vas fermer ta gueule, c'est pas qu'on s'en parle. Mais sur le net, sans oublier qu'il y a des millions de personnes qui les écoutent. Amen. L'amour a disparu du peuple de Dieu. Le pilier n'y est pas. Quand il y a le don de guérison, si tu n'as pas l'amour, tu ne guériras pas les malades. Sauf si Dieu a tellement pitié de ces malades et qu'il veut qu'ils soient guéris. Tous les dons et les grâces que Dieu nous donne doivent être manifestés dans l'amour. Quand tu sais chanter, chante par amour. Ça fera du bien à ceux qui écoutent. Alléluia. Quand il y a un don, manifeste-le par amour. Il y a des gens qui disent, je vais prêcher l'évangile, je vais chercher des âmes. Mais ils vont chercher des âmes dans la haine. Et les âmes qui sont en face d'eux ressentent la haine. Ils ont quelqu'un en face d'eux qui est en train de leur dire, tu vas te condamner, tu vas aller à l'enfer. Ils ne passent que condamner. Alors que je vais vous dire quelque chose, le plus grand brigand du monde, le plus grand sorcier du monde, le plus grand féticheur du monde, le plus grand sataniste du monde, il y a une seule âme qui peut le vaincre, c'est l'amour. Même quand tu pries pour combattre ses œuvres, si tu le fais avec amour de son âme, tu le sauveras. Ou s'il n'est pas destiné à te sauver, tu te protégeras, mais au moins il saura que tu as quelque chose que lui n'a pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous connaissez la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable? La différence est tout simplement simple. C'est que l'enfant de Dieu doit être rempli d'amour et l'enfant du diable doit être rempli de haine. C'est tout à fait clair. Donc, est-ce que je suis de Dieu ou est-ce que je suis du diable? Parce que je ne peux pas prétendre être enfant de Dieu alors que j'ai la haine en moi. Amen. La base de la vie chrétienne, c'est ça. Bien-aimé, si je vais approfondir ce message, il est fort. Quand tu as l'amour de Dieu, ça c'est une parenthèse. Si tu as vraiment l'amour de Dieu de ton prochain, quand tu sais que tu peux faire une offrande, on n'a pas besoin de te demander. Puisque tu sais que ça va faire avancer l'œuvre de ton Père. Et tu sais que ça va faire sauver des âmes. On est d'accord? Si tu as l'amour de Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu peux être égoïste et puis garder ça pour toi. Une fois j'ai écrit, normalement les serviteurs de Dieu ne devraient pas passer leur temps à parler d'argent, d'argent, d'argent. Parce que chaque vrai enfant de Dieu devait savoir que son corps, son âme, sa vie, tout ce qui est à lui, Dieu lui a donné pour faire avancer son œuvre. À partir du moment où chacun connaît ça, on n'a même plus besoin de prêcher sur les offrandes et tout ça. Mais aujourd'hui, regardez dans les églises, on ne prêche que sur ça. Les gens passent que sur ça. Il y a même des serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés là-dedans. À chaque verset biblique, à chaque virgule de la Bible, ils peuvent te convaincre que ça, c'est offrande. Ils sont les spécialistes. Ils vont te parler de Jésus mourra sur la croix. En terminant, Jésus mourra sur la croix, tu vas voir que ça se termine avec offrande. Pourquoi? Parce que certaines personnes manquent d'amour pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, les hommes de Dieu sont obligés de se transformer en hommes d'affaires, en prêcheurs de, comment on appelle, en managers de leur église. Amen. 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 Un enfant de Dieu qui sait que quand il bénit l'œuvre de Dieu, il est béni. Tu n'as pas besoin de lui parler beaucoup. Il se lève le matin, il vient lui-même te surprendre, il te bénit. Amen. On continue. Jean chapitre 15, verset 12 à 13 dit, ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne ne peut avoir un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oh my God. Bien-aimé, quand il lit la parole de Dieu, c'est Jean chapitre 15, verset 12 à 13. Bien-aimé, quand tu comprends la parole de Dieu dans ce sens, tu te poses des questions, est-ce que je suis réellement chrétien? Amen. Ces versets que nous sommes en train de lire s'adressent à des chrétiens dans l'église. Ce qui veut dire que, même au temps des apôtres, ils commençaient à avoir déjà la haine et les divisions dans l'église. Donc, les serviteurs de Dieu étaient obligés d'en parler pour que les gens comprennent que la vie chrétienne sans amour n'a pas de sens. Amen. La Bible est profonde. Bien-aimés, je vais vous expliquer un passage qu'on ne va pas lire. Quand vous allez dans Genèse, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment l'amour est fort et comment l'union est forte. Quand vous allez dans Genèse, le chapitre 11, le verset 1 à 9, vous pouvez le garder pour lire plus tard. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, si vous vous rappelez de cette histoire de la tour de Babel, la Bible dit que les gens, les habitants de la terre étaient de quoi? Une même langue. Ils parlaient tous une même langue. Et en plus qu'ils parlaient tous une même langue, ils se sont rassemblés pour construire une ville. Ils voulaient avoir une seule ville, c'est-à-dire un seul endroit. On n'aurait pas eu la France, on n'aurait pas eu les États-Unis, on n'aurait pas eu ça, on aurait eu un seul endroit où on est tous pareils. D'accord? Et sans cela, ils ont commencé à construire un édifice, quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la tour de Babel. Et le but, dans quel but? Dans le but de pouvoir atteindre le ciel. Dieu n'a pas aimé. Il les a dispersés. Et puis, en les dispersant, il les a confondus. C'est-à-dire qu'il a mélangé les langues. Je m'entendais avec ma soeur, on parlait ensemble. Du coup, elle parle gabonais. Moi, je parle maintenant ivoirien. L'autre parle camerounais, l'autre parle espagnol. On dit, mais ils se disent dans la tête, mais tout à l'heure on parlait bien ensemble. Non, on avait une seule langue. Dieu les a prouvé qu'il est Dieu et il a mélangé les langues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges qui sont descendus donc les ont dispersés et ils n'ont pas achevé leur construction de la tour de Babel. Mais ce n'est pas de la tour de Babel que je veux parler. Je veux parler de quelque chose qui est caché dans cette chose. C'est l'union de ces personnes. Remarquez, leur union a fait trembler Dieu lui-même. Leur union a fait trembler Dieu lui-même. En fait, Dieu était dans le ciel et puis il voit une union. Même les hommes du monde disent l'union fait la force. Ils voient des gens unis, une seule langue, un seul peuple. Ils sont en train de construire quelque chose. Au début, ils ont commencé. Dieu dit, oh, ils vont faire la fondation, ils ne vont pas aller plus loin. Après, hop, ils ont commencé à monter les briques. Dieu dit, oh. Et puis, à un moment, Dieu voit que, à cause de cette union-là, ils ne sont pas loin du ciel. Il dit, non, ceux-là, si on ne descend pas pour les confondre, pour les diviser, ils vont arriver au ciel. C'est ce qu'on dit, diviser pour mieux régner. Alléluia. Donc Dieu va les confondre. Alors, si des êtres humains dans l'union ont fait trembler Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, imaginez l'union des enfants de Dieu dans l'amour, sous la puissance du Saint-Esprit, comment est-ce que le royaume des ténèbres va trembler? Imaginez comment le royaume des ténèbres va trembler. C'est d'ailleurs pour ça que Satan crée la division. Regardez Satan, son rôle. Si ça va dans un couple, il faut que je crée la division. Parce que, attends, ils sont restés trop fidèles. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. La fidélité, fidélité, à un certain moment, ça commence à me fatiguer. Ça, c'est Satan qui parle comme ça. Donc, le monsieur qui était fidèle à sa femme, un jour va au travail, dans sa voiture, et il a commencé à chanter des louanges déjà même en sortant de la maison. Il est dans la voiture, alléluia, je mourrai pour Jésus, tout ce qu'il veut. Et puis il y a une demoiselle, mais possédée d'un esprit de Jézabel, qui brille avec tout ce que cet homme n'a pas imaginé. Écoutez-moi bien, des popotins, des airbags, de tout ce que vous voulez. Et puis, le monsieur arrive au feu, comme par hasard. Hein. D'habitude, il passe sans problème, même il a le feu vert. Mais ce jour-là, c'était feu rouge. Spécialement organisé par Satan. Il arrive au feu, et puis feu rouge. Mais il ne sait pas d'où elle est sortie. Il y a quelqu'un qui passe. Et puis, elle fait semblant de trébucher sur son talon. Et puis, comme il dit qu'il est enfant de Dieu, il aime rendre service et que c'est devant sa voiture. Il a oublié que Satan est malin. Il ouvre la porte de la voiture. Madame, vous n'êtes pas fait mal. Et puis elle s'accroche. Ah, non, ça va, monsieur. Et puis, il a oublié qu'il partait au travail, qu'il a une femme à la maison. Vous allez où? Non, je vais. Et puis, il va la déposer. Il ne sait pas que c'était son secret qui s'est manifesté en chair pour venir le trouver au feu rouge. Donc, la femme, ah merci monsieur, vous êtes gentil, et je peux avoir votre nom, je peux avoir votre numéro de téléphone, c'est fini. On lui dit, non, c'est bon, je vous ai rendu service, je m'en vais, numéro de téléphone, tout. Le soir, il est assis tranquille avec sa femme, il a oublié cette femme-là, il est en train de manger tranquille. Message, merci pour ce que vous avez fait pour moi, vous êtes naze. Quand il lit, il dit, oh, elle pense à moi. Et puis les petits démons sont là. Ah oui, c'est là, elle pense à toi. Hein. Ah ouais, il ne faut pas la rater. Hein. Ah ça c'est des choses comme ça, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Hein. Ça fait 26 ans qu'il est en train de tourner avec la même femme, ça t'apporte quoi même. Et puis le diable parle dans sa tête. Il parle. Et puis au début, il ne répond pas. Un jour, quand même, au fait, ça va, je peux t'offrir un café. Dans le café là, c'est hôtel, il va offrir. C'est maison, il va offrir. C'est les enfants, il va offrir. Et c'est son couple qui va diviser. Et le diable, elle a dit, je viens d'avoir un. Et puis Satan danse. Des frères en Christ dans l'église qui s'aiment, mais d'un amour parfait. Le diable va arriver un jour. La sœur Christelle va vouloir, qui a l'habitude de rigoler avec la sœur Esther, va vouloir dire à Esther quelque chose. Mais ce jour-là, il y a un petit démon qui s'est mis sur le chemin de la parole. Et pendant que Christelle dit la chose, le démon prend la parole et puis frappe l'oreille d'Esther. Boum! Et puis Esther a dit, mais pourquoi elle me parle comme ça? Pourtant, ce n'était pas ce qu'Esther a entendu que Christelle était en train de dire. Esther donc va répondre. Et Christelle va être étonnée, elle va se dire, mais Je ne lui ai rien dit de mal. Pourquoi elle me parle comme ça? Et puis un démon parle à Christelle, un démon parle à Esther. Tu as vu comment elle te parle? C'est elle-même. Je t'avais dit qu'elle ne t'aimait pas. Depuis le début, je t'avais expliqué, mais tu n'as rien compris. Et puis, Christelle commence à regarder Esther autrement. Esther aussi commence à la voir du ciel là-même. Et puis ça commence. Les deux prennent leur douleur pour rentrer à la maison. Mais ce n'est pas fini. Les démons les attendent à la maison pour ruminer la chose. Donc, Esther, au lieu de prier pour dire « Satan, tu es vaincu, va-t'en » ou bien Christelle aussi, il y a un qui va prendre le téléphone pour dire « Je veux faire explication. » Et au téléphone, pendant une heure, ils vont s'insulter. Au lieu de se donner des paroles d'amour. Et demain, division. Et Satan est là. Oh, c'est trop facile de diviser les enfants de Jésus parce qu'ils n'ont pas le pilier, ils n'ont pas la racine, ils ne savent pas ce que c'est que la base de la vie chrétienne. Amen. Lorsqu'on connaît, qu'on sait que la base de la vie chrétienne, c'est l'amour, quand des choses arrivent, même quand on ne peut pas les régler, on prie. Et Dieu donne la solution. Amen. L'union de certaines personnes a fait trembler Dieu. Regardez, quand vous lisez, il dit, mais... Ah, il dit, le Seigneur dit... ça m'a fait rigoler. Il dit, je vais lire cette partie-là. C'est-à-dire, Dieu est dans le ciel, et puis il dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Hein? Il dit, c'est le verset, c'est Genèse, hein? Genèse chapitre 11, le verset 1 à 9, d'accord? Et je vais vous lire à partir du verset 6, d'accord? Il dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Oh my God. Donc, si les hommes sont unis, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. C'est sorti de la bouche de Dieu, ce n'est pas moi. Si les gens sont unis pour le mal, rien ne peut les empêcher. S'ils sont unis pour le bien, rien ne peut les empêcher. Or, nous, nous savons que nous sommes des enfants de lumière et que nous devons propager la paix, la joie. Donc, nous devons nous unir pour propager ces choses et rien ne pourra nous empêcher. Une église avec un réveil spirituel sans amour, ce n'est pas un réveil spirituel. C'est un réveil stratégique et un réveil charnel. L'amour doit être la base de la vie chrétienne. Regardez ce qui se passe dans le corps de Christ actuellement. Des pasteurs qui aident des pasteurs. Des prophètes qui aident des prophètes. Des pasteurs qui accusent, condamnent, qui jugent sans preuve leurs collègues. Ou, par exemple, Dieu est en train de l'utiliser... L'autre n'a pas la même consécration que lui, donc Dieu ne l'utilise pas de la même manière. Au lieu de venir vers lui pour dire, mon frère, aide-moi dans la prière, encourage-moi pour que je devienne comme toi, il va vouloir le casser par derrière. Même dans cette ville où nous avons commencé l'œuvre, moi je n'ai pas encore vu une persécution dangereuse d'un païen. La plus grande des attaques et des persécutions qu'on a reçues est venue de la part de soi-disant ceux qui sont chrétiens. Et encore plus grave, évangéliques comme nous. On se comprend. Et il y a des gens qui créent, qui disent qu'ils sont chrétiens, qui créent des radios spéciales pour attaquer le corps de Christ. Il y a d'autres qui créent des télévisions. Et ils osent même appeler la télé avec le nom du Christ. La télévision, il ne dit pas critiquetv.com. Il ne dit pas, par exemple, assassinatdeschrétiens.com. Il ne dit pas, par exemple, satantv.com. Mais ils vont faire appeler ça, par exemple, Jésus-Christ TV. Et tous les chrétiens vont aller, vont dire, ah, je vais voir quelque chose. Et arriver là-bas, tel pasteur, c'est un sorcier. Tel pasteur, c'est un sorcier. Tel pasteur, c'est... En fait, eux, dans leur mission, il n'y a pas un qui est juste. Tout le monde est mauvais et sorcier. Eux, ils sont les plus saints, les plus justes. Et j'ai fait même mon enquête. Il paraît que même cette mission-là, l'un des réalisateurs est quelqu'un qui venait de divorcer aux États-Unis et qui vit avec une femme actuellement qui n'est pas sa femme. Mais il ose aller à la télévision, de sa télévision, sa chaîne, pour critiquer des hommes qui sont en train de se consacrer pour faire vraiment l'œuvre de Dieu. L'amour. Quand tu as l'amour que ton frère tombe, tu jeûnes, tu pries, tu dis non, on est dans la même équipe, on est des enfants de Dieu, on est dans le corps de Christ. Je ne permets pas que Satan l'emporte à la fin. Je prie pour lui, qu'il se relève, qu'il se relève. Non, tu ne prends pas le micro pour dire oui, voilà, tel il disait qu'il était ceci, il est tombé. Mais tu es un enfant du diable. En toi se trouve pas l'amour. Dieu n'agit pas de la sorte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu n'a pas dit parce qu'ils ont péché, je les écrase hein, définitivement. Même au temps de Noé, il a permis qu'il y ait encore hein, une génération d'êtres vivants sur la terre, malgré qu'il était en colère. Même en détruisant Sodome et Gomorrhe, il a voulu sauver plusieurs personnes. Mais hélas, il n'y avait personne pour sauver, donc il a sauvé seulement que Lot. Et comme sa femme, elle, est attachée aux bijoux, l'argent, et toutes ces choses. Parce qu'il y a trop de chrétiens aussi en ce moment qui sont attachés à ça. Hein. Amen. Il y a des femmes, alors là, tu mets Saint-Esprit, tu mets bijoux, tu mets maquillage, elle va te dire, je prends maquillage, c'est bijoux, tout ce que tu veux, mais ton Saint-Esprit là, c'est pas lui qui va me... Hein. Amen. Donc le corps de Christ n'a plus de piliers, n'a plus de racines. Et nos prières deviennent comme des prières vaines. Nos prières ne montent plus à Dieu. Lorsque nous prions, au lieu que nos prières soient d'une odeur agréable et que Dieu sente un parfum agréable pour se dépêcher de nous exaucer, Dieu sent des odeurs qui le font vomir. Et donc Dieu se dit, mais il demande à l'ange Gabriel, Gabriel, qui est en train de parler là? Il ne dit pas qu'il est en train de prier, parce que pour lui, c'est des paroles en l'air. Qui est en train de parler? Il dit, mais, oh éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Il dit, c'est encore l'autre là, Ignace là, qui est en train de parler encore pour rien. Mais lui là, il n'a pas compris que il faut que son cœur soit rempli d'amour avant que je les ose. Oui, Seigneur, il lit sa Bible à l'envers. Quand il arrive sur les versets où ça parle d'amour, il les saute. Il préfère les versets qui parlent de puissance et de richesse. Mais l'amour, ça ne l'intéresse pas. Oh, Gabriel, que dois-je faire? Je ferme sa bouche définitivement. Et puis c'est Gabriel qui va dire, non, Seigneur, laisse. Peut-être qu'il va comprendre un jour par les épreuves. Des fois, Dieu nous permet beaucoup d'épreuves pour nous amener à être parfaits. Quand tu as beaucoup souffert de faim, tu peux considérer quelqu'un qui a faim et avoir pitié de lui. Quand tu n'as jamais connu quelque chose, que quelqu'un est en train de vivre la chose, tu as du mal à comprendre. Mais quand tu as déjà vécu, tu dis non, moi-même je suis passé par là. On peut l'aider, on peut l'aider, on peut l'aider. Alléluia. Bien-aimé, Jésus m'a donné un conseil dans Luc chapitre 6, le verset 27 à 34. Il dit, mais à vous qui m'écoutez, donc vous qui êtes là aujourd'hui, vous tous qui m'entendez, Jésus dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. Oh, c'est pas facile ça, Seigneur. Et à celui qui te frappe, si un jour présente encore l'autre. Oh Seigneur, tu dis ça, mais vraiment, hein? Et celui qui te prend ton manteau ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. En plein hiver en plus, hein? Ça c'est pas rajouté, c'est moi qui rajoute. Et dit, donne à quiconque te demande et ne redemande pas ton bien à celui qui s'en empare. Il dit, et ce que vous voulez, j'aime trop cette partie-là, et ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur vous aussi, pareillement. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Il dit, et si vous faites du bien
à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera-t-on? Car les pécheurs aussi font cela. Et si vous prêtez à ceux qui vous, de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Voilà. Amen. Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur qui s'est fait gifler par quelqu'un. Un monsieur vient et puis gifle le pasteur. Le pasteur lui tend l'autre jour. Il gifle encore. Et dès qu'il a fini de gifler l'autre jour, le pasteur a envoyé un coup de poing. Et la personne est tombée KO. La personne, on fait tout, il se relève. Et puis il dit au pasteur, mais tu n'es pas un vrai pasteur. Tu ne lis pas ta Bible. La Bible dit quand on te chauffe sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Le pasteur lui a répondu, oui, effectivement, c'est vrai. Mais la Bible dit, quand on te gifle sur l'autre, tends l'autre. Mais la Bible n'a pas dit, après avoir tendu l'autre, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, donc, puisque la Bible n'a pas expliqué qu'est-ce qu'on doit faire, moi, je crois bien qu'après la deuxième, on peut peut-être répondre un peu. C'est pourquoi j'ai envoyé le coup de poing. Si Dieu avait dit, après la deuxième, fais rien du tout, j'aurais rien fait. Bon, il a ses raisons, le pasteur. Hein? Parce que c'est pas facile de prendre deux gifles comme ça dans la rue. Hein? Souvent, on dit, bon, lui là, je vais lui montrer ce qu'il faut. Et après, je vais arriver à la maison, je vais prier pour demander pardon à Dieu. Vous savez, c'est pas facile. Hein? C'est verset que je suis en train de vous lire. Même moi, en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que je suis un humain. Mais bien aimé, lorsqu'on comprend la parole de Dieu, qu'on la possède, qu'on se dit, je vais la pratiquer, on y arrive. On y arrive. Et à cause de l'amour qu'on a, Dieu permettra que certaines choses ne soient pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut venir t'insulter. Ta manière de le répondre peut faire que ça ne va pas se transformer en bagarre. Ça va se transformer autrement. J'ai déjà vécu des choses comme ça. Pour une parole qui est sortie, qui devait te blesser, tu l'as répondu autrement. Tu as mis ça un peu en comique et tout. Surtout pour nous qui sommes Africains, qui vivons en Europe. Quelqu'un te sort un propos raciste. Hein? Quand quelqu'un te demande, je prends un exemple, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et le soleil chez toi et tout. Et moi, deux fois pour rigoler, j'ai dit, mais je ramène le soleil. Il dit, c'est grâce à moi, vous avez un peu de soleil. Et puis la conversation change. On commence à rigoler. Et puis deux fois, la personne va dire, mais ah là là là, je vous envie, hein, vous êtes. Et puis lui-même, il est en train de parler pour lui dire qu'en fait, chez lui, en fait, il n'y a rien. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais si tout de suite, il dit, oh, pourquoi tu parles comme ça, toi? Oh, attends, j'ai pris mes mains. Toi, t'es un petit raciste, hein. C'est vrai, il y en a. Ça fait mal. Tu as envie de le répondre pour le prouver que toi aussi, tu sais parler. Mais la Bible dit, rappelle-toi que tu es enfant de Dieu et que l'amour doit caractériser tout ce que tu fais. Amen. Gloire à Dieu. La Bible ne dit pas que c'est facile, mais la Bible dit, pratique et ça fera partie de ta nature. Gloire à Dieu. Et ici, Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Ah ça, quand tu as compris ça, c'est fini. Tu te dis, mais si j'étais à sa place, comment est-ce que j'aimerais qu'on me parle? Comment j'aimerais qu'on me fasse? Comment j'aimerais qu'on me traite? Si tout le monde a compris, si les enfants ont compris ça, ils ne feront pas du mal à leurs parents. Si les parents ont compris ça, ils ne font pas du mal à leurs parents. Si le mari a compris ça, il ne fait pas du mal à sa femme. Si la femme a compris, il ne fait pas du mal à son mari. Si le frère a compris, il ne fait pas du mal à sa soeur. Si la soeur a compris, il ne fait pas du mal. Ça veut dire que chacun se met à la place de l'autre en disant, mais si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me fasse? Et là, Dieu te donne la solution. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, je suis vers la fin de mon message. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Beaucoup de chrétiens ont lu ce passage. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, il est écrit, Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Cymbale. Vous connaissez cymbale, non? Rien dedans. Je n'ai pas l'amour. Vous savez pourquoi la cymbale fait du bruit? Hein? Vous voulez cette révélation? Nous, on est plus que les scientifiques, nous qui avons l'Esprit de Dieu. Pourquoi elle fait du bruit? Parce qu'elle est vide. Quelque chose qui est rempli ne fait pas du bruit. Hein? Quelqu'un qui marche, qui sait qu'il est, il est champion des âmes, je ne sais pas quoi là, de quel combat, âme, je ne sais pas quoi là, karaté, je ne sais pas combien de dames, que lui-même, comme ça seulement 20 personnes tombent. Est-ce qu'il fait du bruit? Quand il marche, il est tranquille. Des fois même, il demande pardon, il se met à genoux. Mais quelqu'un qui sait qu'il ne vaut rien, il parle tout de suite. Ah, viens, tu vas voir. Viens. Et il fait sa main comme ça, tu ne mets pas de vrais coups de poing. Yeah! Regarde le petit là, dans le coin. Tu vas voir. Hé, hey, ma maman, hé, hey, mon papa. Il saute partout. Et des fois, quand il met sur sa tête, boum, il est à terre. Et il commence à pleurer. Celui qui fait du bruit est vide. Donc, si je parle la langue des hommes et la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis vide. Tu peux faire robacha, kaka, makato, loboko, shika du matin jusqu'au soir. Dieu dit, il n'y a pas l'amour. Tu as parlé pour rien. Tu as cassé ta voix pour rien. Tu es une cymbale. Tu es vide. Tu es un tonneau vide. Prenez une barrique vide. Tapez dessus, ça fait du bruit. Mais mettez de l'eau dedans. Remplissez, tapez, il n'y a aucun bruit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que ceux qui écoutent ce message, qu'on se trompe, parce que l'amour châtie aussi. Je continue de prêcher mon message, mais je mets une parenthèse. Parce que quand on parle d'amour, des fois on rêve. Oh, la vie est belle. Moi, ma mère m'aimait, par exemple. Mais elle m'en a fait voir. Hein? Parce que moi aussi, je voulais la faire voir. Elle m'a bien chicoté. Mais ce n'était pas amour. Hein? On dit, quand on aime, elle va dire, ah, l'amour. Oh. Aujourd'hui, papa a prêché sur l'amour. Donc, oh, youpi, je pourrai faire ce que je veux. L'amour châtie bien. Il ne faut pas qu'un fidèle dise, ah, le pasteur a prêché sur l'amour, donc maintenant on peut faire ce qu'on veut. Au contraire, parce que je t'aime, je vais te dire, répands-toi. Je vais te dire, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Parce que si je ne t'aime pas, je vais te laisser aller te détruire. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, verset 2, et quand j'aurai le don de prophétie, oh, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire que tu peux lever les paralytiques, tu peux transporter des choses par ta voix. Quand tu prêches, même tout le monde tombe. L'onction descend en force. Dieu dit, s'il n'y a pas l'amour, tout ce que tu fais, c'est du cinéma. Tu n'es rien. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, là encore, c'est compliqué. Hein? Comment quelqu'un qui distribue ses biens peut ne pas avoir l'amour? Comprenez qu'il y a des gens qui font des dons, qui donnent l'argent aux gens dans la rue, et qui aident les gens, mais en fait, ce n'est pas avec amour. Quelqu'un peut venir, peut te dire, viens chez moi manger. Mais pendant que tu es assis en train de manger, il ne t'aime pas en fait. Mais il a voulu travailler sa conscience. Tout simplement pour dire, bon, au moins je dirais que je l'ai invité. Ça se comprend un peu. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de manger, il a envie de dire si il pouvait arracher l'assiette là dans sa main même. Et pendant que tu prends les morceaux dans sa tête, il est en train de calculer combien de morceaux tu prends. Pourtant, il t'a invité. Donc, il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture, il n'a pas dit de mes amis, hein, la nourriture des pauvres. Il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, cela ne me sert à rien. C'est-à-dire, quelqu'un qui va se brûler pour son prochain, s'il n'a pas l'amour, parce qu'on peut se faire brûler pour son prochain par orgueil, par fierté, ou pourquoi on parle de nous. Amen. On peut faire du bien à quelqu'un juste pour qu'on sache que nous aussi on fait du bien. Mais en fait, il n'y a pas d'amour derrière. Dieu dit, tu n'es rien. Ça, tout ce que tu as fait ne sert à rien. Donc après, il ne faut pas être étonné que tes prières ne sont pas exaucées. Il ne faut pas être étonné que la prospérité ne vient pas. Il ne faut pas être étonné qu'il y a des blocages parce que Dieu regarde ton cœur. C'est rempli de méchanceté. Il n'y a pas d'amour. Oh, j'aimerais que ce message fasse du bien à chacun de nous et que nos vies changent afin que nous puissions recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que nous avons tellement de bénédictions en suspens, il faut les prendre maintenant. Il dit, l'amour est patient, c'est-à-dire la charité est patiente. La patience, vous savez ce que c'est? La patience. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. Amen. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Oh, ça c'est bien ça. Elle ne cherche point son intérêt. Je t'ai donné, mais... Il ne faut pas oublier, hein? Je t'ai donné, hein? Intérêt. L'amour, la charité, ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas un banquier. Pour dire, je te prête, mais je veux intérêt. C'est j'ai donné, j'ai donné. Amen. Amen. Elle ne s'irrite point. Oh, là c'est grave ça. L'amour ne s'irrite point. Mais si on veut se baser sur ça, les gens vont condamner maintenant tous ceux qui se fâchent un peu. Amen. Vous savez, la Bible est un peu contradictoire des fois. Hein? La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, mais ce même Dieu-là, la Bible dit qu'il va s'irriter et puis il va frapper quelqu'un. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'ai grondé mon fils qui était en train de jouer avec son devoir, mon avant-dernier. Il dormait sur la feuille, il ne travaillait pas. J'étais obligé de le secouer un peu. Il a trouvé toutes les fautes. Il a bien travaillé. Mais si je disais, oh mon petit, je t'aime, tu sais. Dors encore sur la feuille, c'est pas grave. Tu sais, ton papa t'aime. Oh, mon petit. Mais jusqu'à là, il est couché sur la feuille. Hein. Mais dès que j'ai élevé la voix un peu, dès que j'ai dit, ah non, 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 ceci, cela, plop, il a commencé à corriger les fautes. Il les a trouvées tout de suite, comme si j'ai mis un déclic dans sa tête. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Je ne sais plus où j'étais. Il dit, ne s'irrite point. Et ne soupçonne point le mal. Ah, ça, c'est bien ça. Dans l'église, il y a des gens qui soupçonnent, qui deviennent Dieu à la place de Dieu. Oh, aujourd'hui, si elle s'habille comme ça, c'est parce qu'il y a ça. Aujourd'hui, s'il dit ça, c'est parce qu'il y a ça. Il y a même des gens qui vont même soupçonner le message du pasteur. Et s'il a prêché ça aujourd'hui, mais c'est à cause de moi, c'est pourquoi il parle de moi. Mais t'es qui toi-même? On est hommes, nous sommes des êtres humains. Si quelqu'un a envie de te dire quelque chose, il va te dire en face. Est-ce qu'on a besoin de venir se mettre derrière une chaise pour parler pour toi seul à plusieurs personnes? Amen. Amen. Individuellement, on peut se parler. Donc un pasteur n'a pas besoin de venir se mettre derrière une chaise pour dire quelque chose qu'il peut dire à une seule personne, à 1000 personnes. On se comprend. Ça, c'est le soupçon, ça. Non, est-ce que lui, il m'aime vraiment? À chaque fois, quand je suis à l'église, il prêche, c'est comme si c'est de moi qu'il parle. C'est que tu as quelque chose à te reprocher. Répare cette chose et ça ira mieux. C'est tout. Si Dieu n'insiste pas, à chaque fois que Dieu parle, il parle et que ça te touche, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu changes pour avancer. C'est tout. Amen. Alors, l'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Hein? Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. C'est ça qui n'est pas facile. L'amour excuse tout. Je vous dis quelque chose aujourd'hui. On peut pardonner et ne pas oublier. C'est jamais écrit quelque part, hein, oublier. Parce que ce n'est pas facile et puis ce n'est pas possible. Mais pardonner, c'est écrit. Pardonner, c'est enlever de ton cœur. C'est enlever de ta tête. C'est enlever de ton esprit. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te rappeler. Ça ne veut pas dire qu'un jour, une circonstance ne va pas te faire rappeler la chose. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est d'accord. Donc, on peut pardonner et ne pas oublier. Et je vais aller plus loin. Tu peux même pardonner quelqu'un avec qui tu étais peut-être le meilleur ami du monde. Mais parce que quelque chose s'est passé et que tu n'as plus confiance, tu peux pardonner et puis ne plus marcher avec cette personne. Ça ne veut pas dire que tu as la haine. C'est tout simplement que tu es en train de te dire, je ne retourne plus dans ces choses qui ont failli me faire du mal. Mais dans mon cœur, je n'ai plus rien contre toi. Dans ma tête, je n'ai plus rien contre toi. Mais tout simplement, prends ton chemin. Moi aussi, je prends le mien. Comme ça, tu vis en paix. Je vis en paix. Et d'ailleurs, ça s'est passé avec Abraham et Lot. La Bible dit qu'il a dit à Lot, va de ton chemin. Va. Mais c'est le même Abraham qui allait combattre pour Lot, pour aller le sauver. Ils se sont séparés, mais il n'avait pas de haine. Amen. Gloire à Dieu. L'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bête. Hein? Quand on dit elle espère tout, ça ne veut pas dire qu'il faut être quelqu'un, tout ce qu'on te dit, hein, comme une petite... Parce que, excusez-moi, je vais dire le mot blond, mais il y a des blondes intelligentes. Hein? Bon, mais il paraît que ici en France, d'autres qui tous sont, pas, elles sont blondes. C'est ce qu'on dit pour... Hein? Bon, voilà. Je ne suis pas en train de juger les blancs. Mais ne soyez pas comme... Bon, il y a des brunes aussi qui le font. Donc, bref, allez. Il ne faut pas être une personne. Quand on vient te dire, oui, est-ce que tu sais que le coco, la noix de coco, en fait, elle tombe du ciel et pousse dans la mer.
Ah oui, la noix de coco tombe dans la mer. Ah, d'accord.
Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit que l'amour croit tout que tu vas croire tous les conneries de la terre quand même, hein. On est d'accord? Hein? Quelqu'un vient te dire, est-ce que tu sais que le papa du serpent, c'est le crocodile?
Ah ouais! Donc c'est le crocodile qui a couché ses parents.
Même si tu as l'amour de la personne, dis-lui, oh, c'est faux. Arrête de me raconter des mensonges quand même. Amen. Bon, un peu d'humour fait du bien. Il dit, elle espère tout, elle suppose tout. Maintenant, le verset 8 dit, la charité ne périt jamais. L'amour ne meurt pas. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va au ciel avec l'amour. On va au paradis avec l'amour. Mais on ne peut pas aller avec la haine, avec l'amour. Donc l'amour ne meurt jamais. Les prophéties peuvent prendre fin. Les dons de guérison peuvent prendre fin. Tout le reste peut prendre fin. La seule chose qui reste éternellement, c'est l'amour. Amen. 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 Romains chapitre 8, verset 35 à 39 dit, qui donc nous séparera de l'amour de Christ? Franchement, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ si nous aimons Dieu? J'ai commencé mon message en vous disant, le pilier c'était aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et ce qui suivait, c'était aimer son prochain comme soi-même. Et ici, je termine parce que j'ai beaucoup de versets, mais on ne va pas les lire ce soir. Amen. Vu le temps, je termine avec ce passage pour dire, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Et l'apôtre Paul va dire, serait-ce la tribulation? Donc parce qu'il y a la tribulation, tu ne vas plus aimer. Amen. Donc parce qu'on te persécute, tu ne vas plus aimer. Il dit, est-ce que c'est la tribulation? L'angoisse. Il demande, est-ce que c'est l'angoisse? Parce que tu es angoissé, donc tu n'aimes plus Christ, tu n'aimes plus personne. Il dit, est-ce que c'est la faim? Est-ce que parce que tu as faim, donc l'amour s'arrête? Et puis il dit, est-ce que c'est la nudité? La nudité, ça veut dire parce que tu n'as plus rien à porter. Tu n'as plus de vêtements. Et puis il dit, ou le péril? Tu es en train de mourir, donc tu n'aimes plus. Il dit, ou la persécution. Et puis il dit, ou le glaive. Ça continue. Il dit, selon qu'il est écrit, à cause de vous, nous sommes mis à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais en tout cela, nous demeurons victorieux. Car celui qui nous a aimés, car je suis certain, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la violence, ni ce qu'il y a de plus élevé, ni ce qu'il y a de plus profond, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et que votre vie chrétienne soit basé sur l'amour. Hébreux chapitre 13, verset 1 dit, que la charité fraternelle demeure parmi vous. N'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont reçu des anges sans le savoir. Dieu peut te tester, mon frère. Dieu peut te tester, ma soeur. Dieu peut t'envoyer un ange en forme humaine. Je vais être très profond dans ce que je vais dire. Dieu peut permettre que même un ange te provoque dans la rue. Dieu peut permettre que un ange soit là, mais juste pour te tester, pour une épreuve. Et lorsque cette épreuve sera remportée dans l'amour, tu auras donc ta bénédiction. Lorsqu'Abraham a vu les anges en train de passer devant chez lui, c'est l'amour qui a fait qu'Abraham a eu son fils Isaac. Abraham ne savait pas que ces anges allaient lui dire, l'année prochaine tu auras ton fils. Dieu avait promis cet enfant, mais Abraham avait 100 ans. Abraham allait mourir presque sans avoir cet enfant. Mais lorsqu'il a vu trois personnes en train de passer, sans savoir même que c'était des anges, il a dit, non, vous ne pouvez pas passer chez moi sans manger. Venez manger d'abord. L'amour a fait qu'il les a invités chez lui. Et c'est quand ces personnes sont rentrées chez Abraham qu'il s'est rendu compte qu'il avait affaire à des anges. Amen. C'est quand ils sont rentrés qu'il s'est rendu compte qu'il avait des anges. Pour terminer, bien-aimés, soyons remplis d'amour. Mais comme je vous ai donné un témoignage ou je vous ai donné une explication tout à l'heure du monsieur qui était dans la voiture, par exemple, qui s'est fait tromper par une femme qui, par exemple, son couple a été divisé, que le diable ne vienne pas vous présenter le faux amour. Que le diable ne profite pas de votre amour pour vous donner des choses négatives. Parce que Satan sait que Dieu veut que nous aimons. Mais il sait qu'il peut se déguiser, comme la Bible dit, en ange de lumière, pour venir profiter de notre amour, pour détruire ce que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas parce que la Bible dit d'avoir l'amour que la Bible ne dit pas d'avoir le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Bien-aimé, pour terminer mon message, je vais te dire que deux fois, Dieu va permettre que tu résistes à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la personne, mais parce que l'Esprit de Dieu sait que cette personne t'amènera la malédiction, t'amènera l'échec. Et Dieu ne veut pas que tu rentres là-dedans. Ne te culpabilise pas si tu sais que ton cœur est rempli déjà d'amour. En fait, en conclusion, ce que je veux vous dire, c'est qu'un enfant de Dieu qui est rempli d'amour, qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, avec le discernement, ne peut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. La Bible dit que tout ce que nous faisons sans la direction du Saint-Esprit devient péché. On est d'accord. Donc c'est le Saint-Esprit seul qui sait qui tu dois aimer. C'est pas parce que Dieu dit d'aimer que ton voisin qui est le marabout là, qui n'arrête pas d'attacher les gens, que chaque soir tu vas aller t'asseoir manger son riz sacrifié.
On est d'accord? On est d'accord? L'Esprit de Dieu va te dire non, il y a du poison dedans. On se comprend. Sortez pas d'ici aujourd'hui pour dire ah, le pasteur a dit on a l'amour, donc je vais pas aller m'asseoir dans les bars, rigoler avec les clochards, manger avec les féticheurs, les tisseurs. Non. L'amour, mais l'amour dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu seul peut endurcir deux fois les cœurs, et Dieu aussi peut rendre les cœurs favorables. Amen. Il arrive que le Saint-Esprit peut te dire, le monsieur qui vient vers toi, passe à droite, laisse-le venir, mais ne le regarde pas, ne le salue pas. Moi, une fois, le Seigneur m'a dit, la femme qui arrive là, elle vient pour te saluer. J'étais en Italie, elle arrive pour te saluer, mais elle vient avec quelque chose contre toi. Et le Seigneur a dit, évite la passe, parce qu'elle a quelque chose contre toi. Effectivement, j'ai dépassé la dame. Elle a tout fait pour me rattraper. Et pendant qu'elle me parlait, cette femme m'attaquait. Et quand j'ai dit, le Dieu qui m'a envoyé, quand j'ai mis ma main comme ça, elle a sauté sur mon doigt, elle a attrapé mon doigt, elle voulait le casser comme ça, le doigt. C'était des jeunes services d'ordre qui ont couru pour venir attraper la dame. En plus, c'était une handicapée dans un fauteuil. Elle faisait semblant d'être handicapée alors que c'était la reine des sorcières de l'Italie qui détruisait toutes les églises. Et comme j'ai dévoilé cela dans une église, donc elle me cherchait partout pour me faire du mal. Et si je disais, oh, j'ai l'amour pendant qu'elle arrive, oh, madame dans le fauteuil, alors là, elle allait me poignarder avec tous ces trucs spirituels. Et aujourd'hui, je ne serai pas devant vous. Mais Dieu m'a dit, évite-la. Amen. Avoir l'amour ne veut pas dire ne plus marcher sous la direction du Saint-Esprit. Avoir l'amour ne veut pas dire ne pas avoir le discernement. Avoir l'amour ne veut pas dire ne plus écouter Dieu. Dieu nous ouvre l'esprit en nous disant que votre vie chrétienne soit basée sur l'amour, mais Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens cocotis. Ah, c'est un mot. Vous connaissez le cocotis? Ma femme, elle connaît le cocotis. Je lui ai expliqué c'est quoi. Le cocotis, c'est le porc. Dans ma langue maternelle en Côte d'Ivoire, cocotis. Regardez le porc. Tu lui donnes l'homme, il mange. Tu lui donnes le chien, il mange. Tu lui donnes tout ce que tu lui veux. Ça m'étonne que des gens élèvent ça chez eux à la maison. Dans leur lit, tout ça. La Bible ne dit pas parce que tu as l'amour, sois un chrétien ignorant. On est d'accord? La Bible dit que tu dois avoir le discernement. Et quand tu as l'amour et que tu sais que quelqu'un est dans la perdition, la seule arme que tu as, ce n'est pas la haine, c'est la prière pour la personne. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse ce message. Qu'il bénisse votre vie. Qu'il vous remplisse d'amour. Qu'il vous remplisse d'amour. Que nos cœurs soient remplis d'amour. Mais que le Seigneur nous dirige par son onction, par sa puissance, et que désormais toutes nos prières soient exaucées au nom de Jésus. Je prie que l'onction de Dieu, cette onction qui a animé le cœur de Dieu lui-même, pour que Dieu aime le monde, pour créer le monde, que cette onction qui donne la paix, qui donne l'amour, vous envahisse aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit vous conduise maintenant dans l'amour. Je prie que le Saint-Esprit vous dit, vous donne le discernement et vous apprenne à aimer selon Dieu. Oui, aimez selon Dieu. N'aimez pas selon les hommes. N'aimez pas pour faire plaisir aux hommes. Mais aimez selon Dieu. Parce que si vous aimez selon Dieu, cela réjouira le cœur de Dieu. Je prie que la grâce vous accompagne. Et qu'à partir de ce soir, toutes vos prières soient exaucées. Parce que vous êtes remplis d'amour, et parce que Dieu est un Dieu d'amour, et parce que sa parole ne sort jamais en vain. Et si vous avez entendu cette parole ce soir, c'est parce que Dieu va commencer à répondre à toutes vos prières. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus. On acclame le Seigneur.